Nous sommes comité de mission, association missionnaire, avec un but qui est énoncé dans nos statuts, qui est celui de l'exercice du culte, de la proclamation de l'Évangile, et nous nous trouvons engagés, finalement, au fil des années, depuis déjà pas mal de temps, essentiellement dans des projets de type sociaux, de développement ou de secours d'urgence dans un cadre humanitaire. Et de temps en temps, l'un ou l'autre jette un froid dans telle ou telle séance de comité en disant est-ce que c'est bien normal? Est-ce que c'est bien là notre objectif? Est-ce que ça n'est pas plutôt le travail des ONG? En tant que mission, sommes-nous bien à notre place? Alors la contestation du travail social qui est accompli par les missions, elle n'émane pas seulement de ceux d'entre nous qui souhaiteraient qu'une place plus grande soit faite à la proclamation directe de l'Évangile, la légitimité de l'association de l'action missionnaire et de l'action humanitaire existe aussi en quelque sorte sur notre gauche, hein, avec quelques-uns qui disent c'est pas normal, vous faites de l'humanitaire, mais en réalité, vous avancez masqué, vous êtes une mission, vous voulez convertir les gens, ce n'est pas honnête. Donc je crois intéressant de faire le point sur cette question. C'est une question qui nous touche très très directement, hein, qui nous frappe de plein fouet. Nous, mission biblique, en particulier cette année, alors que l'étendue des, enfin, la mission biblique a reçu un écho très très fort à la présentation des besoins qu'elle a effectués pour le secours en Haïti. Hein. L'audience de la mission biblique n'a sans doute jamais été aussi forte au cours des dernières années que cette année-ci, parce que, disons, les cœurs ont été émus et qu'un grand élan humanitaire s'est manifesté, qui est passé en partie pour les églises évangéliques de France à travers, et de Suisse à travers la mission biblique. Donc je vous propose, pour répondre à la question de savoir s'il est bien légitime d'associer action missionnaire et action humanitaire, de nous pencher sur l'histoire, et singulièrement sur l'histoire des missions. Il me semble qu'une étude même superficielle de l'histoire nous permet de tordre le cou à une idée fausse, qui serait de chercher à disjoindre l'action missionnaire de l'action sociale et de l'action humanitaire dans les situations d'urgence. Je crois que nous pourrons montrer que ce qui a été le moteur de la vie et du développement de l'Église chrétienne au cours du XXe siècle, c'est-à-dire les missions, ces missions ont effectué un travail de proclamation directe de l'Évangile et d'action sociale qui ont été inextricablement liées. Cela reviendra à montrer aussi que les évangéliques se sont intensément mobilisés dans le champ de l'action sociale tout au long du XXe siècle, et pas seulement après Lausanne. L'action missionnaire, l'histoire missionnaire, tendant à être un peu comme l'histoire coloniale, disons, mise entre parenthèses, et quelque peu négligée par l'histoire et par ceux qui s'intéressent à ce que les évangéliques ont fait. Alors, il y a deux ou trois idées que je vous propose. La première serait de dire que, au fond, si l'on étudie l'histoire, et là je pense à l'histoire des missions en général et à l'histoire de la mission biblique en particulier, mais je considérerais l'histoire des missions de la façon la plus générale avec quelques petites notations concernant la mission biblique. Donc la première thèse, si vous voulez, ce serait de dire que l'action sociale est à la racine de l'histoire des missions modernes. Les missions modernes que l'on fait démarrer avec le 19e siècle, un tout petit peu avant, avec William Carey, hein, quand il arrive en Inde. L'action sociale est à la racine des missions modernes. Ce serait la première thèse. La seconde thèse, le second fait, me semble-t-il, de l'histoire missionnaire que j'essaierai de développer plus longuement ensuite, consisterait à dire que l'action missionnaire et l'action missionnaire tout entière, je dirais, repose très largement sur deux piliers que sont l'action médicale et l'action scolaire, depuis les tout débuts et tout au long de l'histoire missionnaire jusqu'à la période très, très récente. Un, tro- troisième point que l'on relève aussi comme une constante de l'histoire des missions, c'est le caractère de libération sociale, de libération des fléaux sociaux, qui est une caractéristique de l'histoire des missions depuis son tout début. Il me semble que ces trois points étant bien établis, il devient difficile ensuite de dire que l'action sociale n'a rien à faire dans le cadre de l'action missionnaire. L'action sociale est à la racine de l'histoire des missions modernes. Première idée, l'action sociale est tout sauf une idée moderne, sauf une idée récente. Ce que l'on observe comme un schéma qui se reproduit très souvent dans l'histoire des missions, c'est un missionnaire qui embarque en Europe ou en Amérique plein d'idéal et du désir de servir le Seigneur en annonçant l'Évangile, et qui débarque et qui, une fois débarqué, se trouve en réalité plongé dans un très profond désarroi. Le désarroi de pouvoir très 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 difficilement agir. À cet égard, la situation du couple Richard, Daniel et Laure Richard, au moment où ils arrivent en Côte d'Ivoire au printemps 1927, trouvent sur place une situation qui est toute différente de celle qu'ils avaient imaginée en partant en Europe, et qui doivent réviser tous leurs plans dès les premiers jours de leur arrivée, et qui se trouvent dans un inconfort total quant à leur avenir. L'histoire du couple Richard n'est pas une histoire du tout exceptionnelle dans l'histoire des missions. La planification stratégique n'a jamais été un fort des entreprises missionnaires, qui ont été accomplies dans de grands élans d'enthousiasme, un enthousiasme qui très souvent s'est heurté à un terrain substantiellement différent. Quand William Carey arrive en Inde, il doit, en 1793, il se heurte à l'hostilité de la compagnie coloniale anglaise qui gère les Indes pour le compte de l'Angleterre. C'est comme ça qu'il lui faut plusieurs années pour s'établir dans une enclave danoise à Serampore à partir de 1800, et c'est là, dans cette ville de Serampore, que se développera son action. Un Adoniram Judson, qui est le premier missionnaire américain, qui sur le bateau adopte les vues baptistes et qui venait travailler en Inde, se heurte à la même hostilité des autorités coloniales et finalement sera l'apôtre de la Birmanie, mais pour des raisons qui avaient été tout sauf prévues. Et tous ces pionniers, ou un bon nombre de ces pionniers, sont dans l'incapacité d'annoncer l'Évangile au moment où ils arrivent en terre de mission. Robert Morrison, celui qu'on appelle l'apôtre de la Chine, il aura vécu 15 ans dans une cave, à se spécialiser dans le travail linguistique, mais à ne pas pouvoir, en réalité, prêcher directement l'Évangile, ce qu'il était venu faire. Enfin, c'était avec cette idée-là qu'il était parti pour la mission. Ces missionnaires en plein désarroi, ayant assez vite réalisé qu'ils ne peuvent pas directement annoncer l'Évangile, font œuvre très souvent de pragmatisme. Très souvent, ils ne peuvent même pas partir en exploration parce que les voyages ne sont pas possibles ou ne sont pas autorisés. Tous ces premiers pionniers réfléchissent à des modes d'action possibles, et très souvent, ce que l'on observe dans l'histoire des missions, c'est que l'action scolaire est la première action entreprise. C'est le cas pour Carré, qui fonde une école. Et Robert Morrison, qui n'a pas cette possibilité-là, est le premier à lancer à Macao, dès 1820, un dispensaire chrétien avec un médecin chinois, et on le considère comme le père des missions médicales, disons. Ce que l'on observe, c'est que dans ce désarroi missionnaire, qui caractérise assez souvent le débarquement du missionnaire sur la terre de mission, la proclamation de l'Évangile directe n'étant pas possible, un temps de préparation étant requis, c'est un type ou un autre de travail social qui permet de se rendre utile, en fonction des besoins du terrain, de créer des relations avec les populations, de montrer que la foi chrétienne qui anime le missionnaire est une foi chrétienne qui se manifeste en faveur des populations auprès desquelles le témoignage évangélique doit être apporté. Ainsi, très souvent, dans les récits de vie missionnaire, dans les biographies, on se rend compte que tout démarre par l'action sociale. Et on peut dire que c'est une action sociale réussie, qui très souvent est le socle de l'action d'évangélisation proprement dite qui suit. Donc ça, c'est la première idée. Quant à la nature de cette action sociale, elle est double, principalement, pas exclusivement, mais elle est double, et il s'agit de l'action scolaire et de l'action médicale. L'action scolaire, c'est presque même un réflexe dans l'histoire des missions. C'est incroyable à quel point les missions ont créé des écoles. Quand on entre au contact de populations qui ne savent ni lire ni écrire, dans la langue n'est souvent encore pas codifiée, si l'on veut un jour que les gens puissent lire la Bible, il faut commencer par fixer leur langue et leur donner les clés de la lecture et de l'écriture. L'action scolaire, c'est une action pour le très très long terme, une action de préparation des cerveaux pour que les cœurs un jour puissent recevoir l'évangile. Et la mission biblique, pour retomber sur disons, quelques éléments de l'histoire de la mission biblique, n'a pas fait exception. Après la première phase d'exploration, hein, donc Daniel et Laure Richard arrivent en 1927, ils se rendent en Côte d'Ivoire pour y servir une union d'églises autochtones, hein, qui s'appelle la Baptist Church and Mission, dont le centre est dans le pays voisin. Et puis quand ils arrivent en Côte d'Ivoire, ils se rendent compte que toutes les églises dont on leur a parlé, dont ils ont vu les photos sur des brochures en papier glacé, de la part d'un pasteur qui s'appelait Mark Hayford, qui était muni des accréditations les plus sérieuses, que toutes ces églises se sont évaporées. Donc, après discussion avec la mission wesleyenne, mission méthodiste qui est déjà implantée, finalement un champ, une partie de la Côte d'Ivoire, est attribuée à la mission biblique pour y entreprendre une œuvre missionnaire à partir de 1927, mais les tout débuts sont des années d'exploration et de construction des infrastructures élémentaires à la survie de nos premiers pionniers. 1927-1928, et en 1930 encore, Daniel et Laure explorent le pays et font connaissance avec les populations. Le premier renfort qui est obtenu pour les assister dans ce travail qui est tellement énorme, c'est l'envoi d'une institutrice, Louise Deleu, en 1931. Donc, immédiatement après l'envoi des pionniers, immédiatement après que l'on a compris que ces pionniers qui se retrouvent pionniers sans que ça ait été prévu, parce qu'ils devaient s'inscrire dans un travail qui, en principe, aurait dû leur préexister, immédiatement après, on envoie une institutrice avec Louise Deleu. Louise Deleu ne fera pas date dans l'histoire de la mission, elle devra rentrer au bout d'une année, mais cela donne une idée de l'importance que l'on attribue dès les tout débuts de la mission à l'enseignement et à l'action scolaire, aussi bien auprès des enfants qu'auprès des adultes. Un fait qui me frappe, c'est que en 1942, par exemple, un moment où la ligne de démarcation existe encore, un moment où il est extrêmement difficile d'envoyer des fonds en Afrique, on envoie deux dames missionnaires, Jacqueline Duménil et Renée Bergonnier, qui deviendra Madame Dupont. On envoie deux dames missionnaires comme institutrices en Côte d'Ivoire, alors même que le monde est en guerre. L'idée de l'enseignement, l'idée de l'action éducative, qui est un engagement de type social, est suffisamment fort pour, dans des heures relativement sombres et difficiles de l'histoire, motiver l'envoi de missionnaires pour ce type de travail. Et l'on sait, dans le cadre de l'Union, les églises évangéliques, services et œuvres, on sait la part que les écoles ont occupée et l'ampleur de l'œuvre scolaire qui a été placée sous la responsabilité de l'UESO, avec des écoles primaires extrêmement nombreuses et avec le cours secondaire protestant du collège Jean Calvin à Balloa. L'action scolaire, c'est un domaine dans lequel l'œuvre de la mission biblique a assez largement recoupé des schémas d'implantation missionnaire que l'on repère en de très très nombreux endroits dans le monde. Il faut plus de temps pour quantifier tout ça et pour en donner toute la mesure, mais c'est une part importante de la structure éducative de bien des pays du Sud qui a été procurée par l'action missionnaire. L'autre volet, c'est l'action médicale dont on peut, vu de France, peut-être sous-estimer l'ampleur, mais qui représente un pan considérable de l'histoire des missions et c'est un phénomène missionnaire, ces missions médicales qui sont très très précoces. William Carey lui-même, le fondateur des missions modernes, il a voyagé d'Angleterre en Inde accompagné d'un médecin, un ancien chirurgien de marine qui s'appelait John Thomas et qui était le second missionnaire de la société des missions baptistes qui avait été fondée par Carré. Donc John Thomas débarque en même temps que Carré, et en même temps que Carré, donc sur le territoire des Indes se trouve un médecin missionnaire dès 1793. Robert Morrison, notre apôtre de la Chine qui a dû se cacher si longtemps au point qu'il a fini par manquer de vitamines, j'ai déjà signalé qu'il a été le précurseur des missions médicales par la création d'un dispensaire dès 1820. Ce qui affligeait Morrison, c'était les dépenses considérables que les pauvres en Chine devaient consentir pour acheter des herbes qui étaient censées les soigner selon la médecine traditionnelle chinoise et qui ne les soignaient pas du tout. Et Morrison, c'est assez amusant, compte tenu de l'estime dans laquelle aujourd'hui, hein, on a tendance à tenir les médecines chinoises, mais disons, Morrison était tout à fait affligé par la façon dont ces populations subissaient des dépenses fortes pour guerre des faits, et c'est ce qui l'a motivé à lancer l'idée d'une action médicale, dont il est considéré comme le pionnier. Un homme comme Hudson Taylor, qui a été... Si Robert Morrison a été le pionnier en Chine, le véritable apôtre, celui qui a été au départ d'un mouvement missionnaire considérable avec des envois de centaines et de centaines de missionnaires en Chine, c'est Hudson Taylor. Hudson Taylor avait fait des études de médecine, il n'avait pas achevé, mais il avait des aptitudes médicales qui lui ont, disons, rendu de grands services pour s'insérer dans la société chinoise, y être accepté, et pouvoir ensuite prêcher l'évangile. Et Hudson Taylor, c'est l'inventeur des missions de foi, faith missions. Hudson Taylor, c'est un homme qui a influé très très largement la pensée et la pratique missionnaire, et on peut considérer qu'à certains égards, la mission biblique s'inscrit dans la continuité directe de la pensée d'Hudson Taylor en termes de préparation missionnaire et d'attente de Dieu dans la prière, en ce qui concerne les ressources financières en particulier. Hein, la façon de faire de Hudson Taylor, c'était de ne jamais faire de demande. Je crois qu'à un certain moment, il devait y avoir 600 ou 700 missionnaires en Chine qui étaient là-bas sous sa direction, mais jamais il ne faisait d'appel financier, il priait Dieu, on donnait de ses nouvelles dans les églises, mais sans qu'il y ait jamais de demande chiffrée qui soit faite aux chrétiens, Hudson Taylor ayant défendant l'idée qu'à partir du moment où un projet missionnaire était approuvé de Dieu, alors Dieu pourvoirait. Et c'est un petit peu sur cette ligne-là que l'église du Tabernacle à Paris, avec Daniel et Laure Richard en Côte d'Ivoire, se sont lancés sans moyens humains, financiers, dans l'aventure missionnaire. Alors c'est Hudson Taylor qui est le père des missions de foi, était aussi engagé d'une certaine façon dans l'action médicale. Cette action médicale que l'on voit démarrer dès le début du XIXe siècle, elle connaît tout au long du XXe siècle une très très forte intensité. Je consultais une encyclopédie hier. Il semblerait que l'apogée de ce mouvement des missions médicales se situe aux alentours de 1920, avec 1157 médecins missionnaires évangéliques envoyés sur la planète. C'est le pic en 1920, mais en 1968 encore, c'est un mouvement qui reste extrêmement fort, avec par exemple 15% des établissements médicaux de l'Inde, pays quand même pas négligeable, 15% des établissements médicaux en Inde sont, en 1968, des établissements missionnaires. Plus du tiers des établissements médicaux du Ghana sont missionnaires, 43% en Tanzanie, par exemple, autre pays d'Afrique, pour donner trois exemples, mais il y en aurait bien d'autres. L'action médicale missionnaire a été tout à fait considérable et remarquable, et il y a eu, disons, toute une tradition médicale qui a caractérisé certaines églises. On cite une famille de missionnaires presbytériens à Ceylan, John Scudder, S-C-U-D-D-E-R, et sa famille. Lui a été médecin missionnaire débarqué à Ceylan en 1819. Et après lui, cinq de ses fils, une de ses filles, trois de ses petits-fils et une de ses petites-filles sont devenus médecins missionnaires, toujours dans la même famille. Ceux qui ont fait les calculs, disons, ont compté des, je crois, 110 ans de travail missionnaire médical dans une famille missionnaire donnée. La médecine missionnaire a ouvert des portes et l'on estime que l'évangélisation de la Corée, qui est aujourd'hui un des faits marquants de la vie évangélique tout court. Hein, la Corée du Sud est l'un des pays protestants qui envoie le plus de missionnaires, elle est passée devant l'Angleterre. L'évangélisation de la Corée a été possible parce qu'un médecin missionnaire avait soigné le neveu du roi, qui a autorisé ensuite d'autres missionnaires à accéder au pays. Et ça a été le réveil de Corée, dans la foulée du réveil du Pays de Galles, et c'est aujourd'hui, l'une des églises, l'un des mouvements évangéliques les plus forts dans le monde. Et tout ça à partir d'un médecin missionnaire qui a ouvert la porte. Alors, la mission biblique, qui était une petite mission de foi, dont les ressources humaines étaient limitées, et qui était engagée en complément d'une action d'implantation d'église dans une action de type scolaire, n'a pas été très tôt engagée sur le terrain médical, si ce n'est par les dons et les qualifications d'infirmières de certaines des missionnaires qui sont partis. On connaît, dans les années 40, l'action de l'œuvre de la pouponnière, qui s'est implantée à Mans, l'importance du travail de la pouponnière et la façon dont l'œuvre de la pouponnière a créé ou entretenu, contribué à l'audience de la mission biblique aussi dans les églises ici en Europe. Le centre de santé qui se trouve à Bobo a été fondé, bien après le temps des missionnaires par l'église, en partenariat avec les missions, et la mission biblique a joué un certain rôle. Là encore, il y a, dans l'histoire de la mission biblique, quelques petits paragraphes consacrés à la mission médicale. Ça nous montre que c'est important partout et que cela reste pertinent. Je crois que le centre de santé qui se trouve à Bobo est dans le quartier, vraiment, un centre de bienfaisance sociale et de témoignage chrétien. Tout à la fois, mais disons, au-delà de ce que nous connaissons pour la mission et ce qui est parfois significatif, et ce qui doit faire l'objet de nos prières, je crois que nous devons avoir à l'esprit le fait que ce mouvement missionnaire médical est en fait un mouvement de très très grande ampleur, et que c'est un domaine d'action sociale, tout à fait remarquable, qui a entraîné une bonne partie des églises évangéliques dans le monde, en particulier, bien sûr, nos frères et sœurs anglo-saxons. Donc, voilà, deuxième point, l'action sociale, l'action missionnaire repose sur deux piliers, l'action médicale et l'action scolaire. En termes d'engagement dans le champ social, le troisième champ d'activité des missions, c'est le champ que l'on pourrait dire politique, plus directement politique, la lutte contre les fléaux sociaux qui a caractérisé les missions depuis le tout début de leur histoire. Donc là, je pense que chacun a des notions de la biographie de William Carey, et c'est tout à fait considérable l'œuvre que William Carey a accomplie en Inde en termes de réforme sociale. Il a lutté contre des pratiques d'infanticide dans la société indienne, il a lutté contre des pratiques de polygamie, de mariage des enfants. Le haut fait qu'on lui attribue, c'est d'avoir obtenu du gouvernement l'abolition de la coutume qui consistait à procéder à la crémation des veuves au moment du décès de leur mari. C'est ce qu'on appelait le sati. Et c'est Carré qui, en 30 ans, disons, de militance infatigable, a obtenu l'abolition de cette coutume cruelle. Il faut dire que les missions, là où elles débarquaient, se heurtaient très souvent, par le simple fait de l'annonce de l'évangile, des coutumes locales, qui étaient des coutumes meurtrières ou très gravement oppressives des populations. Donc Carré a été un réformateur social qui reste célébré aujourd'hui dans l'Inde comme tel. Il a l'estime de tous. Il a lutté aussi contre le système des castes très tôt. Dès les premiers mariages chrétiens, les missionnaires, les missions ont montré leur opposition à ce système des castes qui caractérisait l'Inde. Sur le continent africain, on peut penser à la vie de Livingstone, David Livingstone, qu'on célèbre plus comme explorateur que comme missionnaire, mais qui était d'abord un missionnaire et qui a mené ses explorations pour ouvrir la voie aux missions très, très largement. Livingstone a été un militant extrêmement éloquent contre l'esclavage, et vous savez que l'esclavage étant officiellement aboli continuait d'être pratiqué, en particulier dans le cœur de l'Afrique, et disons toute la biographie de Livingstone peut être relue comme un combat pour l'Africain et contre les pratiques inhumaines qui sévissaient à l'époque en Afrique. En Côte d'Ivoire, on ne repère pas d'engagement politique direct des pionniers de la mission biblique, mais quand on lit Le Bon Combat, qui donnait les nouvelles de la Côte d'Ivoire, donc je l'ai fait hier soir, entre 1930 et 1935 par exemple, dans Le Bon Combat à cette époque, on lit les lettres des missionnaires, donc Daniel, Laure, Louis Milan racontent leur tournée et leur activité pour l'Église et les amis de l'Église qui soutiennent l'œuvre. Et là, on se rend compte que dans l'Ouest, assez souvent, nos missionnaires recueillent de sources directes des témoignages de sacrifices humains qui sont pratiqués dans l'Ouest de la Côte d'Ivoire, avec des cas, disons, d'anthropophagie qui sont tout à fait avérés. Et l'action missionnaire est une des premières à contester disons dans les cœurs, ce type de pratique. Les missionnaires assez souvent s'affligent que ces populations si accueillantes et souriantes soient en réalité asservies à des coutumes aussi lourdes et aussi cruelles. Il y a bien un effet politique, un effet sur la condition sociale et sur la vie tout court de ces populations qui est provoqué par l'arrivée de l'Évangile et par le témoignage missionnaire. Dans la région de Danané, il y avait des coutumes en pays Yakuba, donc, de vente de femmes, de commerçants du là, ou de location de femmes, par exemple, que rapportent les missionnaires. Et bien évidemment, l'action disons, d'évangélisation dans ces régions a pour effet immédiat de s'opposer à de telles coutumes portées par les croyances traditionnelles. Mais il y a aussi les ravages de l'alcool. Ça a été sur la Basse-Côte l'un des premiers fléaux rencontrés et contre lesquels l'Évangile était aussi un mode de lutte. Pour le reste, sur le champ politique. On peut relever dans l'histoire missionnaire une certaine prudence hein, quant à l'action politique partisane. La situation de la société coloniale, elle a été, utilisée par les missions de la façon la plus habile possible pour permettre la proclamation de l'Évangile. Les missionnaires de la mission publique s'engagent en Côte d'Ivoire parce qu'il faut des missionnaires français et que c'est pour des missionnaires anglais ou pour des chrétiens de langue anglaise, anglophone, une façon de contourner les interdictions que l'administration coloniale fait à la prédication en anglais. Donc c'est sur ce motif-là qu'on vient pour la première fois parler de la Côte d'Ivoire à l'Institut de Nogent. Donc ce fameux docteur Ifort qui finalement disparaît quand le couple Richard débarque. Mais enfin, c'est quand même lui qui les aura décidés à partir. Et le motif premier, c'est de dire il faut des missionnaires qui parlent le français parce que l'administrateur nous interdit de tenir nos cultes en anglais. Et là, il y a une sorte de solidarité missionnaire internationale qui vient secouer un petit peu les Français pour qu'ils se lancent dans l'aventure missionnaire et que de cette façon-là, ils contournent, des interdictions que le pouvoir colonial a prononcées. Voilà, pour le reste, dans le champ politique, ce que l'on peut relever, c'est que ce sont vraiment les fléaux sociaux qui sont combattus par les missions, mais les missions évangéliques, dont l'œuvre a été tellement importante qu'elle a transformé la physionomie de l'Église, au début du troisième millénaire où nous nous trouvons, dans cette action des missions évangéliques ne s'est pas comportée de façon partisane là où la politique était marquée par les idéologies en vogue. Voilà donc quelques considérations historiques qui, me semble-t-il, nous font conclure au caractère inséparable de l'action missionnaire et de l'action sociale ou humanitaire. L'humanitaire, ce n'est jamais rien d'autre que de l'action sociale de bienfaisance mise en place dans des situations d'urgence. Il me semble que cela doit nous renforcer dans notre résolution à soutenir le travail des missions, même quand ce travail des missions prend des formes toutes humanitaires, et paraît ressembler à ce que des ONG font par ailleurs. Je crois que nous devons même, en tant que chrétiens, considérer que l'action missionnaire constitue en quelque sorte le summum de l'action humanitaire. L'action humanitaire par excellence, parce que c'est l'action missionnaire, l'action chrétienne, en faveur des populations qui expriment pleinement l'humanité telle que le Seigneur l'a créée et la fraternité telle qu'elle se conçoit en Jésus. Alors juste une pensée pour conclure, c'est qu'il me semble que ce type de prise de conscience du fait que jamais l'action missionnaire, l'annonce de l'Évangile n'a été séparée de l'action sociale et du travail humanitaire. C'est une pensée qui a une répercussion sur la façon dont nous concevons le culte. Nous vivons dans un monde qui comprend mal ce qu'est le culte et sous une forme de pression sociale qui consiste à en rétrécir le spectre. En France, par exemple, on en vient à identifier l'exercice du culte avec la célébration du culte. Donc à restreindre la vie de l'Église au culte du dimanche matin. Il faut se battre pour que les clubs d'enfants soient maintenus dans le cadre du culte. Il faut se battre, et nous avons dû nous battre en tant que mission publique pour conserver le statut cultuel il y a quelques années. Mais il me semble que nous sommes d'autant plus engagés à nous battre pour cela qu'on ne voit pas dans l'histoire de l'Église de rupture entre la prédication et l'engagement social, entre cet engagement social et l'engagement missionnaire. Il me semble que cela désigne pour nous tous et pour les temps qui viennent une zone de bon combat.